Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'héroïne de l'histoire qu'on raconte aujourd'hui s'appelle Anne-Sophie Matisse. C'est une grande femme blonde de 42 ans. Elle passe son enfance à Punois, en Meurthe-et-Moselle, un bourg de 4000 habitants à une vingtaine de kilomètres de Nancy. Elle y devient une belle Lorraine, un peu bagarreuse. Son père est chauffeur poids lourd, tout le temps sur la route, sa mère un peu débordée par des enfants fort remuants. Son histoire, c'est celle d'une incroyable ascension. Comment, entre 2006 et 2014, Anne-Sophie Matisse, mère célibataire à 24 ans d'une petite fille dyslexique qui fait les devoirs avec elle le soir jusqu'à pas d'heure, va devenir 8 fois championne du monde de boxe. Et comment ensuite ça s'arrête là, la retraite à 37 ans et l'ascension qui redescend jusqu'à ce qu'elle trouve un job bien loin des Sunlight, un boulot pour le moins étonnant, vous n'en reviendrez pas. En réalité, l'histoire commence vraiment en 2006. Anne-Sophie est déjà championne d'Europe, mais cette fois-ci, elle affronte la star du moment en direct sur Canal+. Et elle gagne. Là, elle passe des honneurs de l'Est républicain à ceux du monde entier. Elle vit toujours à Dombasle-sur-Meurthe, pas très loin de Nancy non plus. Jamais elle n'osera partir à l'étranger, aux États-Unis par exemple. Jamais elle ne quittera vraiment la région. Aujourd'hui, la championne, l'ex-championne, habite à Tomblaine, dans la banlieue est de Nancy, à l'est de l'Est, modestement, avec sa fille Léna, qui a maintenant 17 ans. C'est là que Mathieu Palin, notre producteur qui la connaît depuis longtemps, est allé la voir pour vous raconter sa grandeur, sa splendeur et son atterrissage difficile, tout de suite, dans les pieds sur terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Quand j'étais petit, je regardais la boxe avec mon père à la télé. Des combats de mecs. Et un soir, en 2006, la grande affiche, c'était deux femmes. Myriam Lamar contre Anne-Sophie Matisse. La Marseillaise contre la Lorraine. La chouchou du public contre une totale inconnue. Contre toute attente, c'est Anne-Sophie Matisse qui leva les bras à la fin du combat. L'image m'est restée. Elle avait du sang sur le visage. Des années après, je l'ai rencontrée pour le travail. Je suis devenu journaliste parce que j'avais pas réussi à gagner ma vie dans le sport. Et du coup, ce qu'on réussit me fascine. Car je sais ce que ça implique comme effort, comme sacrifice. Anne-Sophie Matisse, j'ai suivi toute sa carrière. 8 fois championne du monde. Le plus beau palmarès de la boxe française. La dernière fois qu'on s'est vu, elle m'a raconté son parcours. Et aussi, pourquoi elle galérait autant à boucler ses fins de mois alors que, chez les hommes, le champion du monde Floyd Mayweather prenait sa retraite avec pas loin $1 milliard sur son compte en banque.
C'est sûr que si j'aurais été un homme, ma vie aurait été différente, ça j'en suis certaine. Moi à l'époque, bon, j'avais déjà un caractère bien trempé et je traînais beaucoup avec les garçons de mon quartier. Il y avait quelques filles, mais voilà, après j'étais pas du genre à jouer aux poupées. Alors je jouais pas non plus avec les voitures, mais... Ouais, j'étais pas non plus une fille ordinaire, j'étais assez masculine et quand il y avait des bagarres, bah, j'étais dans le groupe. J'ai été dans le sport quand même assez jeune, hein. J'ai commencé le sport à l'école, j'ai été dans l'athlétisme où j'ai eu un bon niveau. Après je me suis tourné vers la boxe, mais j'ai fait du volley, du tennis, j'ai fait pas mal de sport. Donc j'étais pas non plus dans la rue, j'étais pas non plus une fille de quartier, hein. J'étais quand même une fille de bonne famille. Je vivais dans un quartier aisé. Simplement, c'était mon caractère et puis des parents qui n'étaient pas là pour me surveiller parce qu'ils travaillaient beaucoup. J'avais une famille normale, mais disons que mon papa n'était jamais là, il était en déplacement toute la semaine. Et puis maman qui s'occupait que de nous, qui était tard. Et forcément, les caractères qu'on avait, on se laissait pas forcément commander. Donc on avait un petit peu le dessus et il était un peu dépassé. On déposait des sacs, on se barrait. Puis ma mère a essayé à l'époque de nous driver, mais on avait un petit peu le dessus, quoi. Je me laissais pas faire et puis du coup j'ai pris un peu les rênes. Ça après c'est comme ça, ça s'est fait. Hein. Mais elle a beaucoup pleuré parce qu'on a fait pas mal de bêtises quand on était jeune et que justement on la respectait pas. Alors quand j'y ai pas respect, attention, hein, j'ai jamais volé ma mère, je l'ai jamais insulté ou je l'ai jamais frappé. Je mets bien ces mots-là. Hein. C'était quand je parle de respect, c'était on l'écoutait pas, on rentrait pas à l'heure, c'était des trucs bénins, je veux dire, c'est des trucs bêtes.
Et qu'est-ce qu'elle en a pensé, ta maman, de,
oh bah,
de la boxe?
Il faut que t'arrêtes la boxe, c'est un sport pour les garçons, c'est plus un sport de bagarre, et toi, il faudrait que tu te diriges vers quelque chose de féminin. Moi, j'écoutais pas. Je savais que c'était quelque chose que j'avais ressenti en moi-même et qui me plaisait, donc j'avais vraiment envie de percer. Et donc j'ai continué, et puis finalement j'ai bien fait de percer. Ça l'étonnait pas que je rentre dans ce milieu-là, mais ça lui a fait peur parce que justement, c'était encore quelque chose dans lequel il y avait que des hommes, où il y avait de la bagarre, donc des choses que j'avais déjà pu être à l'affrontement lors de... quand j'ai été appelé à la gendarmerie parce que je m'étais bagarré et qu'il y avait eu une plainte pour coup et blessure. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Le problème que j'avais à l'époque, c'est que je ne savais pas justement parler et avoir les bons mots. J'avais pas les mots pour pouvoir m'exprimer. Je m'énervais et puis j'allais à la baston, c'était le cas de le dire. Après, c'est pas que j'étais méchante, ni simplement j'avais pas d'autres moyens de défense. Donc j'ai appris à parler, j'ai appris à me défendre avec des mots, et j'ai appris à me calmer, à prendre sur moi, à prendre du recul, voilà, toutes les choses normales, on va dire, qu'on peut apprendre à un enfant et grandir avec. Moi, je l'ai appris avec la boxe. Le prof, quand il m'a vu, il m'a forcé un petit peu la main parce que j'étais un peu anti-règle. Et donc, quand on m'a dit, voilà, il faut que tu fasses comme ci, comme ça, j'avais pas forcément envie d'apprendre. J'avais plus envie de me défouler. Donc, il l'a très vite compris. Il m'a pris en leçon. Donc, c'est des pattes d'ours qui se mettent au niveau des mains et on frappe dedans. Et quand il m'a pris en leçon, j'ai eu une super bonne sensation. J'ai pu me défouler et seulement après, il a fait de l'éducation par la boxe. Et du coup, elle en a été contente parce que j'ai réussi à me canaliser. Et puis finalement, ce côté-là, j'ai réussi à le transformer dans la boxe et puis en gagner ma vie et à respecter les autres. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir rencontré René. Alors René Cordier, c'est sûr que c'est pas une personne qui m'a fait gagner énormément d'argent, mais c'est plus quelqu'un qui a su me garder les pieds sur terre et en qui j'avais confiance, j'avais une confiance mutuelle, donc c'est ce qui a fait que je suis devenu plusieurs fois champion du monde. Après, j'aurais été avec quelqu'un d'autre, j'aurais pu le devenir, mais je pense pas que j'aurais été au-delà. On a réussi à avoir le trophée du fair play, justement parce qu'on était une équipe qui le méritait, et je l'aurais certainement pas eu avec quelqu'un d'autre. Et tout de suite, René, quand il m'a fait essayer avec un mec de la salle, à l'époque qui était champion de France, il a détecté tout de suite quelque chose. Alors forcément, je me suis fait dépasser parce que cette personne avait déjà un super bon niveau. J'ai pas touché terre, hein. C'est le cas de le dire, j'ai dû donner deux coups. Mais il a tout de suite vu que j'avais les capacités parce que j'ai jamais reculé et puis j'avais le caractère pour. Donc il a simplement dit, bon voilà, je vais en faire quelqu'un, je la garde. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Ce qui m'a tout de suite plu, en fait, c'était le fait que je sois inférieur. En fait, j'aimais pas être inférieur. Il fallait que j'arrive à être au-dessus. Mais il fallait que je gagne, en fait. Donc, j'ai voulu apprendre la technique après. Parce que au début, j'étais pas vraiment. J'ai même jamais trop été technique. Mais il y a quand même des bases qu'il faut savoir. Et ces bases-là m'ont justement permis d'être au-dessus des autres. Je parle en tant que féminine, bien sûr. Il a su m'apprendre ce qu'il fallait par rapport à mon tempérament. Il savait que j'avançais, il savait que je frappais, donc il m'a appris les gestes simples. J'ai jamais été au-delà parce que j'étais pas technicienne. Et puis ça a fonctionné. J'aurais pu aller ailleurs, peut-être avoir quelque chose de mieux, mais est-ce que j'aurais vraiment réussi? Non, je pense que j'ai été à la bonne école. Je peux pas dire que j'aurais eu mieux ailleurs, honnêtement. J'ai eu le bon entraîneur et par rapport à ce que je suis, je pense que j'étais bien où j'étais. Être entraîné à la dure, comme à la Rocky Balboa, ça me convenait très bien. Je pense que j'aurais été aux États-Unis, comme il y en a dit, déjà je parlais pas la langue, j'aurais souffert. De deux... Là-bas, c'est des produits, j'aurais passé forcément par le dopage, parce que voilà, pour réussir là-bas, y a des contraintes. J'aurais pas accepté, on m'aurait dit, écoute, t'es pas contente, tu repars chez toi. Donc voilà, après, non, j'étais à la bonne école, j'étais bien. Je pense qu'en tant qu'éducateur, il y en a beaucoup qui profitent des professionnels parce qu'ils gagnent leur pourcentage et puis derrière, le mec qui prend des coups, ils s'en foutent. J'en ai vu plein. Hein. Ils les envoient au charbon, ils prennent leur pourcentage et puis... Moi, ça n'a pas été le cas avec René, au contraire. Il a su me protéger. Par contre, il n'a pas su gérer mon côté financier. Parce que lui, il boxe pas pour l'argent. Il a toujours fait ça à titre gratuit. Il a toujours dit le sport, ça doit être gratuit. Ouais, je suis d'accord, sauf qu'on n'est plus dans les mêmes époques. Et pour vivre de sa passion, on est bien obligé de gagner aussi de l'argent. Donc, ouais, c'est juste sur ce point-là, parce que j'ai dû me débrouiller toute seule. Et puis, bon, voilà, ça n'a pas été facile, quoi. J'ai fait beaucoup de sacrifices et il y a des moments où j'avais envie d'arrêter parce que j'avais du mal à vivre. Donc, ce que je faisais, c'est quand on est professionnel, surtout en boxe féminine, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de combats. En plus, mon niveau, j'avais pas beaucoup d'adversaires. Donc, je faisais 3 voire 4 combats dans l'année lorsque j'étais avec mon promoteur Michel Acariès. Et à ce moment-là, je faisais mon combat. Et derrière, j'avais à peu près, quelques mois... où je m'entraînais plus du tout régulièrement, donc là je pouvais me permettre de travailler. Et quand je travaillais, c'était des petits jobs, hein. C'était un job d'un mois, 2 mois en intérim. J'ai fait des ménages, j'ai fait des trucs basiques, sans diplôme, sans forcément de bagages. Donc c'était plus pour survivre, en fait, je survivais. Et puis quand j'avais des combats, après j'ai commencé à gagner des bonnes primes, et je m'arrangeais pour gagner une partie afin de pouvoir vivre un petit peu en étalonnant. Je roulais pas non plus sur l'or. C'est sûr que j'étais pas non plus du genre à me pouponner ou à se transformer pour être une autre personne et à vendre son image. Ça, c'était pas mon truc. On m'a demandé une fois de mettre des talons avec une robe pour faire des photos. Certes, ça me va bien, mais c'est pas moi. Donc, je vais pas aller, même si je gagnais de l'argent. On m'a déjà dit, tu peux faire ci, tu peux faire ça, ça marchera. Oui, ça marchera un temps, mais c'est pas moi et je me retrouve pas. Donc je préfère gagner moins et rester moi-même. C'est qu'on a un nom, on a une image, donc forcément on va nous utiliser. Donc derrière, il faut savoir aussi utiliser les personnes pour avoir un rendu et pour pas être déçu. Il y a un boxeur qui est parti avec un autre entraîneur, parce que ce boxeur-là, on lui a promis des choses, et puis il avait aussi possibilité d'avoir une meilleure carrière, des meilleurs moyens financiers. Et tout le monde l'a critiqué en disant « Ouais, c'est pas bien, il lâche son entraîneur, c'est lui qui lui a tout appris. » Et il n'a pas signé de contrat à vie. Je comprends pas pourquoi on va aller dire ce qu'il doit faire. S'il ne trouve plus son compte, qu'il parte. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas la rémunération comme on peut avoir dans d'autres sports. Dans le foot, le mec, il va gagner des sous. Demain, ça ne lui plaît plus d'être dans ce club-là, il part. Et l'entraîneur n'ira jamais rien dire. Pourquoi ? Parce qu'il a une rémunération compensatoire. En boxe, on n'a pas. Donc c'est vrai que la mentalité française, là-dessus... on va critiquer le boxeur. Je suis pas d'accord. On est libre de faire nos choix qui sont les mieux pour nous et pas forcément pour l'entraîneur.
France Culture, les pieds sur terre.
Après, on dit jamais les tarifs parce qu'on trouve que ça se dit pas. Moi, j'ai rien à cacher là-dessus parce que j'ai toujours tout déclaré. Mais la plus grosse prime que j'ai eue, c'est 100 000 euros. Cécile Abricus m'a relancé. J'avais arrêté ma carrière. Et j'ai carrément été au bluff. J'ai dit, ok, pas de souci, mais c'est temps. Et puis, ils ont pas dit non. Donc, c'est moi qui me suis retrouvé coincé au final parce que j'ai négocié au mois de juin et on a fait le combat au mois d'octobre alors que je m'entraînais plus depuis un an. 100 000 euros pour une femme, en France, ça n'existe pas. Après, chez les femmes, c'est entre... on va parler de 10 000 à 30 000, c'est une fourchette, mais ça va pas au-delà. Et encore, c'est à l'époque qu'on gagnait ça, parce que maintenant, les organisateurs, ils n'ont plus les moyens de donner autant à des filles, parce que ça ramène plus... c'est les hommes qui ramènent du monde, c'est plus les filles. Donc, j'ai arrêté au bon moment, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non, parce que reprendre la boxe pour... Moi, j'ai les pieds sur terre et je sais que j'en suis plus capable. Si demain, je peux dire, je reprends la boxe et faire un combat contre une débutante et je vais gagner et je me prends un billet. Mais pourquoi faire ? Pour qu'on aille dire, regarde contre quelle boxe, pourquoi elle refait ça ? J'ai pas envie qu'on me critique. Pour moi, ça a été mon métier, ça a été quelque chose qui m'a fait grandir et ce serait pas du tout dans mon sens.
En 2014, je l'avais suivi pour son dernier combat. René était toujours dans le coin du ring, à lui passer de la vaseline sur les sourcils pour faire glisser les coups. Elle avait 38 ans, et ça sentait déjà la fin.
On peut être bon physiquement, là, le dernier combat contre Brecus, je me suis super bien entraîné, à l'entraînement j'étais super bonne, le psychologique n'y était plus, j'étais pas dans le match. Même si au début, voilà, je montre que je suis bien, bon, ça n'a rien à voir avec le coup de tête que je prends, mais je suis plus dedans, ça n'a plus rien à voir, j'ai une machine en face de moi et voilà, on voit qu'il y a un décalage complet, quoi. Donc à ce moment-là, je prends mon gagne-pain, c'est le cas de le dire, hein, j'ai pas peur de le dire, il y en a plein qui le disent pas, moi je le dis, j'y suis allé parce que j'ai réussi à négocier une super bonne prime que je n'aurais jamais eue si j'étais pas en fin de carrière et parce que j'étais la fille à battre, mais je l'ai fait uniquement pour ça à la fin. En espérant quand même d'essayer de gagner, parce qu'on y va quand même pour gagner. Hein. Et mon entraîneur, il n'aime pas quand je dis ça, parce que lui, il n'est pas du tout pour l'argent. Mais c'était mon dernier combat, prendre une prime comme ça, bon, c'est sûr que derrière, avec tout ce que je dois payer, j'ai pas eu les 100 000 non plus, hein, faut pas rêver. Hein. Parce que ça, quand on dit je prends 100 000 euros, les gens s'imaginent que 100 000, c'est dans la poche. Non, non. 50% qui part entre les taxes, les impôts dans la société, l'entraîneur, le manager, tout ce qui va avec, quoi. Mais dans tous les cas, ça fait une bonne somme qui m'a permis derrière de financer ma maison, de m'acheter une voiture pour aller travailler, et puis après j'ai mon boulot, point final, voilà. Donc je fais un métier comme tout le monde, et je m'éclate pas, ça c'est sûr. Après je vis.
On s'était eu au téléphone, quelques semaines après sa retraite officielle. Elle m'avait décrit son nouveau boulot, ASVP. Agent de surveillance de la voie publique. En clair, pervenche.
Mes DPV, c'est bien, mais maintenant, en tant qu'SVP, forcément, on m'a déjà mal parlé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils parlent mal à un uniforme. Ils parlent pas mal à la personne. Parce qu'ils me rencontrent dans la rue, ils me parleraient pas comme ça. Donc, j'ai jamais pris pour moi, j'ai toujours pris pour l'uniforme. Après, il faut savoir simplement communiquer. J'ai jamais eu trop de problèmes. J'ai dû avoir quelques intercations, mais en 4 ans d'exercice, ça se limite à 2, 3. Vraiment, où ça a été un peu haut quoi, dans les mots, mais ça s'arrête là. Il n'y a rien qui me... J'ai pas de pep, j'ai pas d'adrénaline dans ce que je fais. J'ai tellement été habitué à pas avoir d'horaire et en même temps d'être toujours à droite, à gauche. Après, les strass et paillettes, c'était pas forcément mon truc, donc ça me manque pas. Le fait qu'on me reconnaisse pas, ça me manque pas non plus parce que j'ai jamais eu besoin de ça. Par contre, tomber dans la routine, j'étais habitué à 20 ans à être à droite, à gauche, invité dans des grands repas, voir des grandes soirées, de voir de belles choses, voyager, profiter. Et aujourd'hui, tout s'arrête. Alors, je profite quand même parce que je pars en vacances, mais ça reste des choses qui sont comment rythmées et datées. Je sais que là, mes prochaines vacances, ça va être Noël. Les prochaines d'après, ça va être les vacances de février. Voilà, c'est programmé. Alors qu'avant, j'avais pas de programme. C'était au jour le jour et c'était les paillettes, quoi. Pas les paillettes dans le sens festivité, mais plus... d'organisation.
Deux entraînements par jour. Courir à jeun, avec le caouet de sudation sur le dos. Soulever de la fonte, maigrir, bien dormir, jamais d'alcool. Boxer, c'est se marier avec sa paire de gants. Il n'y a pas de place pour les proches.
Justement, si j'ai réussi, c'est en dépend de ma fille. C'est qu'à un moment donné, j'étais obligé de la laisser de côté. Parce que si je m'occupais d'elle, j'aurais pas pu arriver à ce niveau-là. Donc il a fallu faire des choix qui ont été un peu égoïstes. Parce que justement, j'avais vraiment cette envie de devenir championne du monde. Mais j'avais pas le choix parce que j'avais personne pour m'aider à l'époque. Donc à un moment donné, il a fallu faire des choix. Et je savais que cette chance-là, je l'aurais pas une deuxième fois. Donc j'ai pris cette chance-là. Maintenant, je m'occupe d'elle. Moi, je l'ai pas non plus abandonnée. Hein. Mais elle a eu besoin de moi à des moments où j'étais pas présente. Parce que j'étais en train de m'entraîner à l'étranger, ou parce que j'étais à l'entraînement quand elle avait besoin de moi, quand elle était à la maison, ou même quand elle était en garde chez la mamie. En tous les cas, elle n'appréciait pas que je la laisse tout le temps à droite à gauche. Elle me l'a reproché, alors je ne veux pas dire qu'elle m'en veut, mais en tous les cas, je pense que c'est quelque chose qui sera marqué à vie chez elle, c'est qu'elle n'a jamais aimé la boxe à cause de ça. J'étais jamais là, hein, je le dis. Hein. La semaine, c'est mamie qui allait la chercher à l'école. Ou alors, quand j'allais à l'école la chercher, j'étais à moitié endormi, donc fatigué. Donc, le peu de remarques déplaisantes, je m'énervais vite, parce que j'avais justement les nerfs à vif, trop fatigué. Quand j'allais laisser chez la mamie, ça se passait pas forcément bien avec la mamie. Donc, c'est moi qui récoltais des pots cassés derrière, donc je m'énervais. Il n'y avait pas vraiment de partie de plaisir de ce côté-là. Donc, elle l'a pas forcément bien vécu. Elle a besoin de sa maman, la maman n'était pas là, donc c'était conflictuel. J'ai loupé quelque chose avec ma gamine et j'ai plus envie maintenant. Je m'occupe d'elle et je m'occuperai de moi après. Je pense que combien? 21 ans? Ouais, 21 ans de boxe. Je l'ai eu à 24 ans, donc ça fait exactement à peu près ouais, une dizaine d'années où j'ai pensé qu'à moi, donc je pense que maintenant je peux lui accorder du temps. Hein, quand vous rentrez, vous avez les parents qui vous attendent, qui vous font faire leurs devoirs, ou qui vous préparent à manger, ou ne serait-ce que dans le côté affectif. Hein. A besoin de la maman parce qu'on n'est pas bien aujourd'hui, on a envie de pleurer, on a besoin de quelqu'un. J'étais pas à ce moment-là. Hein. Donc souvent, où, elle m'a demandé de jouer avec elle, j'avais pas envie. Même les devoirs, moi je les faisais par obligation, mais c'était toujours... C'était souvent, on se bagarrait, je me battais avec elle pour y arriver, quoi. Ouais, non, maintenant, elle est passionnée un peu par la mode, elle a envie de devenir styliste, c'est un métier qui est très dur, c'est pareil, hein, il faut connaître du monde, il faut se donner les moyens pour y arriver, c'est pas un métier où tout le monde peut y arriver. Après, je crois en elle, comme je lui ai dit, il faut que tu te donnes les moyens, hein. C'est comme moi la boxe, hein, je l'ai senti, j'y ai cru. Et j'ai tout donné, j'ai rien lâché. Je pense que ce sera elle, ce sera la même chose dans son métier. Il faut croire en son enfant pour qu'il croie en lui aussi. Ma maman ne croyait pas trop en moi au début, mais elle aurait cru en moi, je pense que j'aurais pu encore avancer plus vite. Mais jamais je lui dis non, ne fais pas ça, c'est très difficile, il y a très peu de chances que tu y arrives. Au contraire, pour moi, c'est la persévérance, l'art de réussir. Ça, c'était ma phrase à l'époque. Donc. Faut juste se donner les moyens pour y arriver. Derrière, mon but c'était d'être policier. Après, il n'y avait plus la passerelle. On a une passerelle interne en tant que fonctionnaire et cette passerelle-là a été fermée au moment où j'aurais pu passer dans la police. Bon. Il y a beaucoup de boxeurs qui se dirigent côté armée, côté police. Je pense que c'est le côté un peu respect. Faire respecter l'ordre, respecter les gens, respecter. Je sais pas, c'est ce côté-là peut-être qui. Le fonctionnement de la vie, faut apprendre le respect. On est obligé de. Il y a des règles, il y a. Puis aider les gens aussi, parce qu'il n'y a pas que sévir. Hein. Le policier, il n'est pas que là pour sévir, il est aussi là pour aider. Aujourd'hui, je suis sur une deuxième phase. Et cette deuxième phase, je ne sais pas encore vraiment ce qui me donne envie et ce que j'ai envie de faire. Donc je ne suis pas moi-même. Simplement, je ne suis pas moi-même parce que je n'ai pas vraiment de repères concrets, je n'ai pas de stabilité. Donc je suis toujours en recherche en fait. Donc là, j'ai peut-être une voie, mais je ne l'ai pas encore essayé. Donc je peux juste me dire que c'est peut-être ça, mais est-ce que réellement ça va être ça? En tous les cas, voilà, je suis en recherche et je vais vers quelque chose qui pourrait être ma future vie, c'est être dans la sécurité ou la police municipale, parce que nationale, j'ai plus l'âge, mais en tous les cas, voilà, c'est ces choses-là qui m'intéressent et auxquelles vers je me dirige. Justement, d'avoir arrêté la boxe et de me remettre dans la vie de tous les jours, de réfléchir, de savoir ce qu'on veut, de ressentir, de toutes ces choses-là, c'est quelque chose de nouveau et c'est pas évident, pas évident du tout. Là, j'ai pas les sensations que j'avais avant. C'est ce que je disais, hein, quand j'étais sur un ring, j'étais une autre personne. Sur un ring, j'ai plus de tempérament, de caractère, et je savais ce que je voulais et je me donnais les moyens pour y arriver. Dans la vie de tous les jours, je sais pas vraiment ce que je veux. Je suis quelqu'un de simple et... principal, c'est que je puisse vivre malgré tout. Je suis comment j'ai pas assez d'ambition, certainement, mais en tous les cas, ça me permet de vivre, de faire vivre ma fille. Mais je vais pas non plus en rester là. Pour moi, je fais la moitié de ma vie, hein, parce que maintenant, c'est les 80, on commence à être vieux. Avant, c'était 60, 70, maintenant, les 80, on commence à être vieux. Donc, j'ai encore 40 ans. Je serai en retraite hein, d'ici là, mais ma vie sera pas finie. We'll be right back.
C'était Les Pieds sur Terre, quartier d'été, après la boxe, le SMIC, un reportage de Mathieu Palin réalisé par Yaël Mandelbaum et diffusé pour la première fois dans Les Pieds sur Terre le 29 novembre 2018. Merci bien sûr à Anne-Sophie Matisse, à Camille Richir, à Cécile Lafont et à Sarah Djiriouille.